Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 34. Le lendemain matin, elle se leva à 5 heures et sortit dans la rue. Il ne faisait pas encore jour, et un épais brouillard, étendu sur la ville, la rendait aussi silencieuse qu'obscure. Des avenues rectangulaires qui bordaient les remparts venaient seulement une chanson de notes menues, due à la chute des gouttes d'eau condensées sur les branches. On l'entendait tantôt sur l'allée de l'ouest, tantôt sur celle de l'est, tantôt sur les deux à la fois. La jeune fille se dirigeait vers le bas de la rue du Blé. Elle était bien au courant des habitudes de Farfrae. Et, à peine arrivée au bout de la rue, elle entendit le bruit familier de la porte tirée, en même temps qu'un pas vif s'avançait vers elle. Elle se dressa devant le jeune homme à l'endroit où le dernier arbre de l'enceinte flanquait la dernière maison de la rue. L'Écossais pouvait à peine distinguer les traits de la jeune fille, et il dut la regarder de près pour la reconnaître. « Comment, Miss Henchard, vous voilà levée si tôt » s'écria-t-il. Elle s'excusa de l'accoster à pareille heure. « Mais il faut que je vous dise quelque chose, et je ne voulais pas inquiéter Mrs. Farfrae en venant chez vous, » expliqua-t-elle. « Vraiment, » fit-il, avec une bonne grâce un peu condescendante. « C'est bien aimable à vous, certainement. De quoi s'agit-il donc ?» Elle commençait à réaliser la difficulté de sa tâche. Comment faire partager à l'Écossais les appréhensions que lui inspirait la situation actuelle? Elle s'y efforça pourtant, et prononça le nom d'Henchard. « J'ai peur, parfois, » dit-elle avec effort, « qu'il ne se laisse aller à quelque tentative, entraîné à quelque outrage. Mais nous sommes les meilleurs des amis. Ou qu'il ne vous joue quelque mauvais tour, monsieur. Songez à ce qu'il a souffert. Je vous répète que nous sommes en fort bons termes. J'ai peur qu'il ne fasse quelque chose qui puisse vous nuire, vous faire du mal, vous blesser. » Chacune de ces paroles coûtait un gros effort à Elisabeth. Elle voyait pourtant que Farfrae restait incrédule. À son sens, Henchard, pauvre ouvrier à son service, n'était plus l'Henchard qui avait été son maître. Et pourtant, ce n'était pas seulement le même homme, mais un homme dont les sinistres dispositions, primitivement latentes, avaient été réveillées par les coups du destin. Heureux et peu porté à soupçonner le mal, Farfrae ne voulait pas attacher d'importance aux terreurs de la jeune fille. Ils se quittèrent bientôt, et elle regagna son logis. La rue s'animait maintenant. Les journaliers se rendaient au travail, les charretiers couraient pour quérir des harnais laissés à réparer chez le bourrelier, des chevaux de labour allaient chez le maréchal, et tous les fils de la terre se rendaient aux champs. Elisabeth rentra tristement chez elle, avec l'appréhension de s'être seulement couverte de ridicule en exprimant ses craintes vagues. Mais Donald Farfrae était de ces hommes pour qui la leçon d'un incident n'est jamais tout à fait perdue. Il faisait à la réflexion un retour sur ses impressions, et le jugement impulsif du premier moment n'était pas toujours définitif chez lui. La vision dans l'aube blême du visage anxieux d'Elisabeth lui revint plus d'une fois ce jour-là. Il appréciait assez la fermeté de son caractère pour ne pas considérer ses appréhensions comme de vaines lubies. Il ne renonça pourtant pas à un projet bienveillant qu'il caressait en faveur d'Henchard, et rencontrant plus tard dans la journée Joyce, le secrétaire de mairie, il lui dit, comme si rien ne se fût passé pour le faire réfléchir. « Je voulais vous parler de cette petite grainetterie qui est allouée en face du cimetière. Ce n'est pas pour moi que j'y songe, mais pour notre malheureux concitoyen Henchard. Ce serait pour lui un moyen modeste, mais possible, de se refaire une situation. J'ai proposé au conseil une souscription privée pour installer l'ancien maire. Je donnerai 50 livres si les autres s'engagent à en verser autant entre eux. « Oui, oui, on m'en a parlé. » « Et il n'y a rien à dire là contre, » répondit le secrétaire, de son ton simple et franc. « Seulement, Farfrae, il y a des gens qui voient ce que vous ne voyez pas vous-même. Henchard vous exècre, oui, il vous exècre, et il vaut mieux que vous le sachiez. À ma connaissance, il se trouvait hier aux 3 matelots, et il lançait en public contre vous des paroles qu'un homme ne devrait jamais proférer contre un autre. « Ah, vraiment, vraiment ?» fit Farfrae, les yeux baissés. « Et pourquoi cela ?» poursuivit-il amèrement. « Quel mal lui ai-je fait pour qu'il veuille me nuire ?»« Dieu seul le sait, » répondit Joyce, en levant les sourcils. « Mais vous faites certainement montre d'une grande patience en le tolérant et en le gardant à votre service. »« Je ne puis renvoyer un homme qui, en un temps, s'est montré bon ami pour moi, Comment oublier que c'est à lui que j'ai dû de prendre pied dans la ville à mon arrivée? Non, non, tant que j'aurai une journée de travail à offrir, il pourra la prendre s'il veut. Ce n'est pas moi qui lui refuserai une si pauvre grâce. Mais je vais renoncer pour l'instant à l'installer dans cette boutique. Je veux y réfléchir d'abord. L'idée d'abandonner son projet causait une vraie peine à Farfrae. Mais découragé par ses avertissements et par d'autres racontars, il alla contremander ses ordres. Le locataire de la boutique s'y trouvait quand Donald se présenta pour rompre les pourparlers. Désireux de légitimer cette démarche, l'Écossais prononça le nom d'Enchard en disant que le conseil avait changé d'avis à son sujet. Fort désappointé, l'autre raconta à Enchard, dès qu'il le rencontra, qu'un projet débattu en conseil pour l'installer dans une boutique avait été mis à mal par Farfrae, et cette fausse interprétation accrut la haine de l'ancien maire. Quand Farfrae rentra chez lui ce soir-là, la bouillotte chantait au-dessus de la haute grille ovale. Légère comme un sylphe, Lucetta courut à son mari et lui prit les mains, sur quoi Donald l'embrassa tendrement. « Oh !» s'écria-t-elle d'un ton mutin, en regardant vers la fenêtre. « Vois, les stores ne sont pas baissés, et l'on peut nous voir !» Quand les lampes allumées et les rideaux tirés, ils furent assis à la table du thé, Lucetta remarqua la gravité de son mari. Sans l'interroger directement, elle laissa ses yeux s'attarder avec sollicitude sur son visage. « Qui est venu ? » demanda-t-il distraitement. « Quelqu'un pour moi ?»« Non, » répondit Lucetta. « Qu'y a-t-il donc, Donald ?»« Oh, rien qui vaille la peine d'en parler, » répondit-il tristement. « Alors n'y pense pas. Tu t'en tireras. Les Écossais ont toujours de la chance. »« Non, pas toujours, » répondit-il, en hochant mélancoliquement la tête et en contemplant les miettes sur la table. « J'en connais plus d'un qui n'en a pas eu. » Sandy MacFarlane, par exemple, qui est allé chercher fortune en Amérique et qui s'est noyé, et Archibald Lace, qui a été tué, et le pauvre Willie Dunblease et Maitland MacFreeze, qui ont mal tourné et ont fait comme leur pareil dans ce cas. Allons, Nigo, je parlais en général. Tu t'attaches trop à la lettre de mes paroles. Quand tu auras fini ton thé, tu me chanteras cette jolie chanson sur les souliers à hauts talons et à boucles d'argent et les 41 soupirants. Non, non. « Je ne saurais chanter ce soir. »« C'est Enchard. Il me déteste et ne veut pas me laisser être son ami comme je le souhaiterais. Je conçois bien un certain degré de jalousie de sa part, mais je ne puis comprendre une haine violente comme celle dont il me poursuit. »« Et toi, Lucetta, on dirait plutôt d'une rivalité d'amour à la mode ancienne que d'une simple rivalité commerciale. » Lucetta avait pâli. « Je ne vois pas non plus, » fit-elle. « Je lui donne un emploi et ne veux pas le lui refuser. » « Mais je ne puis me dissimuler qu'avec un homme violent comme lui, il n'y a jamais aucune sécurité. »« Qu'as-tu donc appris, Donald, mon chéri ?» fit Lucetta avec inquiétude. Elle allait ajouter « Est-ce quelque chose à mon sujet ?» Mais les paroles expirèrent sur ses lèvres. Incapable pourtant de contenir son agitation, elle sentit ses yeux se remplir de larmes. « Non, non, ce n'est pas aussi grave que tu l'imagines, » reprit doucement Farfrae, qui pouvait moins que sa femme apprécier la situation. « Je voudrais que tu fasses ce dont nous avions parlé, » soupira tristement Lucetta. « Laisse là tes affaires, et nous quitterons Casterbridge. Nous avons bien assez d'argent. À quoi bon rester ici ?» Farfrae paraissait assez disposé à discuter la question, et ils en parlèrent jusqu'à l'arrivée d'une visite. C'était l'Alderman Vatt, leur voisin. « Vous avez sans doute appris la mort du pauvre docteur Schofield. Oui, il est mort ce soir à 5 heures, » fit Monsieur Vatt. Schofield était le conseiller qui avait été élu maire au mois de novembre précédent. Farfrae exprima ses regrets de la nouvelle, et M. Vatt poursuivit. « Oh, on s'y attendait depuis quelques jours, et comme il laisse une famille bien pourvue, il n'y a qu'à accepter la chose. Maintenant, voici, tout à fait, entre nous, ce que je suis venu vous demander. Si je vous désignais pour sa succession, et qu'il n'y eût pas d'opposition particulière, accepteriez-vous la mairie ?» « Mais il y a bien d'autres conseillers dont le tour doit venir avant le mien. Je suis jeune et l'on pourrait m'accuser d'ambition excessive, » répondit Farfrae, après un instant de réflexion. « Pas du tout. Je ne parle pas en mon nom seul. C'est l'avis de plusieurs de mes amis. Vous ne refuserez pas ?»« Nous songions à quitter la ville, » intervint Lucetta, en regardant son mari avec inquiétude. « Oh, c'était une idée en l'air, » murmura Farfrae. « Non, je ne refuserais pas, si c'était le désir d'une bonne majorité au conseil. »« Parfait, alors. Considérez-vous comme élu, » nous avons assez goûté des hommes d'âge. » Quand il fut parti, Farfrae murmura d'un ton rêveur. « Vois comment nous sommes conduits par des puissances qui nous dominent. Nous décidons une chose et en faisons une autre. Si l'on veut me nommer mère, je resterai ici. Et Enchard ragera autant qu'il lui plaira. » Depuis ce soir-là, Lucetta vécut dans les transes. Si elle n'avait pas été l'imprudence incarnée, elle n'aurait pourtant pas agi comme elle le fit, un ou deux jours plus tard, en rencontrant par hasard Enchard. C'était dans le brouhaha du marché, où nul n'aurait pu sans peine distinguer leurs paroles. « Michel, supplia-t-elle, il faut que je vous demande à nouveau ce dont je vous avais déjà prié voici plusieurs mois. Rendez-moi toutes les lettres et tous les papiers de moi que vous avez entre les mains, si vous ne les avez pas détruits. Vous comprenez combien il est nécessaire pour le bien de tous d'effacer le dernier souvenir de ce temps de Jersey. Eh, Dieu vous bénisse, j'avais tout emballé jusqu'à la dernière ligne pour vous remettre le paquet dans la diligence, mais vous n'êtes pas venu. » Elle expliqua que la mort de sa tante l'avait empêchée de se mettre en route au jour convenu. « Et qu'avez-vous fait du paquet, alors ?»« Il ne le savait pas. Il avait besoin de réfléchir. » Quand Lucetta se fut éloignée, il se souvint d'avoir laissé un tas de papiers sans valeur dans le coffre-fort de son ancienne salle à manger. Ce coffre-fort était creusé à même le mur de sa vieille maison, l'actuelle demeure de Farfrae. Les lettres pouvaient se trouver dans le nombre. Un rire sardonique plissa le visage d'Enchard. Le placard avait-il été ouvert? Le soir qui suivit cette rencontre, il y eut grande sonnerie de cloches à Casterbridge, et les fanfares de bois, de cuivre, de cordes et de peaux s'unirent pour faire le tour de la ville avec une prodigalité plus folle que jamais de sons percutants. Farfrae était maire et se trouvait le 200e membre d'une dynastie élective qui remontait aux jours de Charles Ier. La belle Lucetta était reine de la ville. Mais il y avait un ver dans le fruit. Enchard, qu'allait-il dire? Lui, cependant, tout bouillant de colère, devant l'information erronée qui lui faisait attribuer à l'opposition de Farfrae son échec dans l'affaire de la petite grainoterie, apprit le résultat de l'élection municipale à laquelle la jeunesse relative et la qualité d'Écossais de Farfrae, fait sans précédent jusque-là, prêtaient un intérêt hors de pair. Les sons des carillons et de la fanfare, bruyantes comme les trompettes de Tamerlan, biquèrent au vif le maire déchu. Son effacement lui paraissait dorénavant définitif. Le lendemain matin, il se rendit au travail, comme d'habitude, et vit, à 11 heures, Donald franchir la porte verte. Le jeune homme ne se donnait pas plus qu'à l'ordinaire un air d'importance, mais sa modestie lui causait en face d'Enchard un redoublement d'embarras, en lui faisant apprécier la distance plus marquée encore de leur situation. L'ancien maire sut pourtant paraître ne se point formaliser de cette dignité nouvelle de son employé d'autrefois, et Farfrae accueillit ses compliments avec bonhomie. « Je voulais vous parler d'un paquet que j'ai dû laisser dans le vieux placard de la salle à manger, » fit Enchard en ajoutant quelques précisions. « Oh, alors il s'y trouve encore, » répondit Farfrae. « Je n'ai jamais ouvert ce coffre. Moi, je laisse mes papiers à la banque pour avoir des nuits plus tranquilles. » « La chose n'avait pas beaucoup d'importance, pour moi, » fit Enchard. « Mais si vous le voulez bien, je viendrai chercher mon paquet ce soir. » Il était tard lorsqu'il se rendit chez Farfrae. Il avait pris du grog, comme il le faisait souvent maintenant, et un rictus sardonique crispait ses lèvres à l'approche de la maison, comme s'il avait contemplé l'idée de quelque jeu terrible. Son entrée dans une demeure où il revenait pour la première fois depuis qu'il y avait vécu en maître, n'était pas faite pour affaiblir le mobile qui le poussait, quel qu'il fût. Le bruit de la sonnette lui fit l'effet de la voix d'un serviteur familier que l'on eût payé pour le trahir, et la porte en s'ouvrant faisait renaître pour lui la vision des anciens jours. Farfrae le mena dans la salle à manger, où il ouvrit tout de suite le coffre de fer encastré dans le mur. Son coffre à lui, Enchard, qu'il avait fait établir d'après ses plans par un ouvrier ingénieux. L'Écossais en tira le paquet et d'autres papiers qu'il s'excusa de n'avoir pas retourné encore à leur propriétaire. « Laissez donc, » fit sèchement Enchard, « ce ne sont guère que des lettres. » « Oui, » poursuivit-il, en s'asseyant et en dépliant le paquet des épîtres passionnées de Lucetta. « Les voilà, pensez que je devrais les revoir. » J'espère que Mrs. Farfrae se porte bien après vos fatigues d'hier. Elle était un peu lasse, elle s'est couchée de bonne heure. Revenue à ses lettres, Enchard se mit à les trier avec intérêt. Farfrae était assis à l'autre bout de la table. « Vous n'avez sans doute pas oublié, reprit Enchard, le singulier chapitre de l'histoire de ma vie dont je vous ai parlé et sur lequel vous avez bien voulu me donner votre opinion. Ces lettres-là ont trait à cette malheureuse affaire qui est pourtant terminée maintenant, grâce à Dieu. Qu'est devenue la pauvre femme? Elle a eu la chance de se marier et de se bien marier. Aussi, les reproches dont elle m'accablait ne me touchent-ils plus comme ils auraient pu le faire sans cela? Écoutez un peu ce que la colère peut faire dire à une femme. » Voulant se plier aux fantaisies d'Enchard, Farfrae lui prêtait une attention polie, malgré son moque total d'intérêt et les bâillements qui l'étouffaient. « Pour moi, disait Enchard, il n'y a pratiquement plus d'avenir. Une femme trop dévouée à votre personne et trop peu soucieuse des conventions sociales, une femme qui sent l'impossibilité d'épouser un autre homme et qui n'est pourtant rien de plus pour vous que la première créature venue rencontrée dans la rue, voilà ce que je suis. Je ne songe à vous accuser d'aucun tort prémédité à mon endroit. » Mais vous n'êtes pas moins la cause du tort que je subis. La certitude qu'à la mort éventuelle de votre femme vous me donneriez sa place est bien jusqu'à un certain point une consolation. Mais comment tabler sur un tel espoir? Et je reste ici, désavouée par mes rares connaissances et abandonnée par vous. » Voilà comme elle m'écrivait, commenta Enchard, des pages de phrases comme celle-là, alors que je ne pouvais apporter aucun remède à ce qui s'était passé. « Oui, approuva distraitement Farfrae. C'est comme cela que sont les femmes. À la vérité, il les connaissait fort peu, mais trouvant une certaine analogie de style entre les effusions de la femme qu'il adorait et celle de la prétendue étrangère, il supposait qu'Aphrodite parlait toujours le même langage, sous quelque forme qu'elle se présentât. Enchard déplia une seconde lettre, et la lut encore d'un bout à l'autre, en ne s'arrêtant qu'à la signature. « Je ne vous dis pas son nom, fit-il doucement. Comme je ne l'ai pas épousée et qu'elle est maintenant la femme d'un autre, ce ne serait pas loyal à son égard. » « c'est vrai, approuva Farfrae. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas épousée quand votre femme Suzanne est morte ?» Il posait cette question, et d'autres encore, avec l'accent d'indifférence paisible d'un homme que l'histoire n'intéressait que de très loin. « Ah, vous pouvez bien le demander, fit Enchard, dont la bouche esquissa un nouveau rictus en croissant de lune. Après toutes ces protestations, lorsque je vins la prier de m'accorder sa main, comme l'honneur m'y obligeait, elle ne voulut plus de moi. Peut-être qu'elle avait épousé un autre homme ? » Jugeant qu'il risquait de serrer le vent de trop près, en insistant sur les détails, Enchard répondit par un oui sec. Le cœur de cette jeune femme se faisait donc bien aisément au changement. « Oh, certes, certes, » répondit Enchard avec emphase. Il ouvrit pour les lire une troisième, puis une quatrième lettre, et poursuivit sa lecture jusqu'à la dernière ligne, comme s'il allait dire le nom avec le reste. Mais, une fois de plus, il s'arrêta court. La vérité, on l'a deviné, c'est qu'il avait prémédité de déchaîner une catastrophe, à la fin du drame, en dévoilant le nom de sa correspondante. Il n'avait pas d'autre pensée en entrant dans la maison. Mais, assis là, de sang-froid, il ne pouvait se décider. L'idée de briser ainsi deux cœurs lui paraissait monstrueuse, même à lui. Son tempérament lui aurait permis d'anéantir les deux époux dans la chaleur de l'action, mais atteindre son but par des paroles empoisonnées, cela dépassait la puissance de sa haine.